Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines. Ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi soir, 7 décembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le commandant en chef adjoint du CGRI a fourni de nouveaux détails sur l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé dimanche soir à Téhéran pour une visite officielle à l'invitation de son homologue iranien. Et au Venezuela, le parti au pouvoir du président Nicolas Maduro a remporté les élections législatives. C'était les titres, en voici le journal. Le commandant-chef adjoint du CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, a fourni de nouveaux détails sur l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Le général de brigade Ali Fadavi, commandant-chef adjoint du CGRI, a déclaré le dimanche soir, lors d'une cérémonie de commémoration de la journée de l'étudiant à l'université de Téhéran, l'ennemi ne peut pas tolérer nos scientifiques et nos spécialistes dans le domaine de la science et de la technologie. Voilà pourquoi il les assassine, dont le dernier est le martyr Mohsen Fakhrizadeh. Concernant les détails de l'assassinat de Fakhrizadeh, il a souligné 11 gardiens de la révolution accompagnaient le martyr Fakhrizadeh et l'explosion de la voiture pick-up avait pour but de les éliminer. Personne n'était sur les lieux de l'assassinat et au total, 13 balles ont été tirées, toutes à partir d'une mitrailleuse déployée à l'intérieur de Nissan. Et le reste des balles ont été tirées par des gardes du corps qui défendaient le convoi. La mitrailleuse installée à l'intérieur du pick-up était également équipée d'un système de satellites intelligents qui ciblait le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh et qui bénéficiait de l'intelligence artificielle. Le chef de l'équipe de protection a été abattu parce qu'il s'est jeté sur le martyr. La mort de M. Fakhrizadeh est également due à une balle qui l'a frappé dans le dos et a provoqué l'amputation de sa moelle épinière. Suite à cet assassinat lâche, l'entité sioniste a placé en alerte maximale l'ensemble de ses ambassades à travers le monde. La 4e réunion conjointe des commandants du corps des gardes frontières des régions frontalières de l'Iran et de l'Irak a eu lieu à Erbil le dimanche 6 décembre afin de développer et d'étendre les relations et les interactions frontalières. Le commandant du corps des gardes frontières de la province, l'Azerbaïdjan de l'Ouest, a souligné que les frontières des deux pays, Iran-Irak, doivent être gérées conjointement et que les gardes frontières doivent résoudre le problème de l'insécurité frontalière due aux activités des terroristes et des trafiquants armés, mais aussi à la contrebande d'articles culturels, d'armes et de munitions à la frontière. Le ministre syrien des Affaires étrangères est arrivé dimanche soir à Téhéran pour une visite officielle en République islamique d'Iran à l'invitation de son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a annoncé dans un communiqué que le haut diplomate syrien a rencontré lundi son homologue iranien Mohammad Javad Zarif et d'autres responsables iraniens. Le ministre syrien mènera des rencontres avec les hauts responsables iraniens, rencontres qui porteront sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays amis dans les différents domaines. Les deux parties échangeront les points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Faisal Merdad a été nommé le dimanche 22 novembre au poste de ministre des Affaires étrangères de la Syrie, succédant à Walid al-Mualem, décédé le 16 novembre à l'âge de 79 ans. Toujours de l'actualité syrienne, la coalition conduite par les États-Unis a envoyé dimanche un nouveau convoi de camions au FTS depuis la région du Kurdistan irakien par le passage frontalier d'Al-Walid. Le convoi est chargé de camions bourrés de pièces préfabriquées, de réservoirs de carburant et de voitures à quatre roues motrices. Il est passé par la route M4 avant de desservir les bases américaines à Saké et à Deir ez-Zor. Les plus grands champs pétroliers de la Syrie se trouvent à l'est et au nord-est du pays. De même, des manifestations ont eu lieu cette semaine par les tribus syriennes contre la présence des forces américaines à l'est de la Syrie, plus précisément dans les zones contrôlées par l'armée américaine dans les périphéries sud et est des ez-Zor. Ils ont protesté contre les forces démocratiques syriennes, les FTS, qui violent et pillent le pétrole. Des sources civiles dans la campagne de Deir ez-Zor ont déclaré que les habitants d'Abu Hammam, ville située dans le district d'Abu Kamal, ont organisé une manifestation d'envergure le samedi 5 décembre, réclamant l'expulsion des FTS et des militaires américains du pays. Ils ont également insisté sur la nécessité d'empêcher le vol du carburant par les FTS et les Américains. Les manifestations contre la présence des États-Unis et leurs alliés kurdes qui volent le pétrole syrien ont également eu lieu dans d'autres villes dont Kashkia et Al-Bouhassan, situées dans la banlieue du sud-est de Deir ez-Zor. Ils ont également condamné la répression des habitants de l'est par des FTS qui recourent à la force pour tuer dans l'œuf les réclamations populaires. Sachez également que les forces d'occupation israéliennes ont bouclé un nombre de principales entrées des villages du Golan syrien occupés et empêché les habitants d'avoir accès à leurs terres agricoles dans lesquelles les autorités de l'occupation veulent établir des turbines. Le correspondant de l'agence de presse officielle syrienne Sana Akuneitra a indiqué que les habitants du Golan syrien occupés s'étaient rassemblés dans les routes aboutissant à leurs terres où les autorités du régime sioniste veulent établir de grandes turbines. Et de l'actualité africaine, le principal groupe d'opposition du Soudan du Sud, qui partage le pouvoir avec le président Salva Kiir au sein de son gouvernement, a déclaré la fin de sa lutte armée alors qu'il se réorganise pour participer aux prochaines élections prévues pour 2022. Regina Joseph, secrétaire générale du Mouvement populaire de libération de Soudan en opposition SPLMIO, dirigé par le premier vice-président Riek Machar, a assuré que le mouvement avait entamé le processus de transition vers un parti politique viable. Cela met un terme à la lutte armée et démarre une phase de participation politique, a indiqué samedi Madame Joseph aux responsables du SPLMIO à la fin de leur conférence annuelle de 3 jours à Djouba. Le mouvement avait lancé une rébellion armée contre le gouvernement de Salva Kiir en décembre 2013 après un désaccord politique entre les deux dirigeants qui a causé une rupture au sein de l'armée et des combats entre les soldats loyaux à l'un ou à l'autre. Le conflit a duré environ 6 ans, fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes au sein du pays ou vers l'étranger. Par ailleurs, à la clôture de la conférence, M. Machar a affirmé qu'il travaillait avec le président Kiir pour d'abord mettre en place un commandement militaire unifié en vue de superviser l'éventuelle unification des troupes de l'opposition et du gouvernement qui seraient en charge de la sécurité pendant la période de transition. Il a aussi noté qu'une fois que tout cela serait fait, la région et la communauté internationale apporteraient le soutien nécessaire au gouvernement transitoire d'Union nationale qui aurait grandement besoin d'une aide financière face à une pénurie de liquidités causée par des difficultés économiques. Et comme on vous le disait en titre, au Venezuela, le parti au pouvoir du président Nicolas Maduro a remporté les élections législatives. La coalition qui soutient le président Maduro, le Grand Pôle Patriotique, a obtenu 67,7% des voix avec plus de 80% des votes comptés. A annoncé lundi la présidente du Conseil national électoral CNE, Indira Alfonso. La fraction de l'opposition qui a participé au scrutin a obtenu 18% des voix, a-t-elle dit. L'opposition dirigée par le personnage soutenu par les États-Unis, Juan Guaido, avait exhorté ses partisans à boycotter le vote. Cependant, malgré ce boycott, les Vénézuéliens ont voté pour Maduro et ses alliés de gauche lors des élections législatives de dimanche. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Quand Alger déjoue le complot d'isolement. Alors que la France, le Maroc et la Jordanie, en collusion avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, tentent d'isoler l'Algérie, celle-ci ne reste pas les bras croisés et sa politique de contre-attaque énerve jusqu'au trône saoudien, qui ne pardonne à Alger son antisionisme, son indépendance et sa liberté d'action, surtout que face à la menace militaire croissante, l'armée algérienne travaille à sa fulgurante modernisation. Un média saoudien évoque un projet anti-algérien du gouvernement français en collusion avec le Maroc et la Jordanie ainsi que les petits émirats du Golfe Persique. Isoler l'Algérie et l'empêcher de jouer son rôle clé dans les crises régionales dans les régions stratégiques du Sahel et du Sahara occidental. Or, l'Algérie se réorganise, élargissant le cercle de ses alliances avec des géants africains comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. On se rappelle comment les États-Unis ont usé de tout leur poids pour bloquer la désignation de l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères pour empêcher le règlement pacifique de la crise libyenne et avoir leur guerre. Or, cet obstructionnisme a poussé Alger à réviser ses relations diplomatiques avec certains pays africains et à élargir ses relations politiques et économiques avec d'autres pays africains. L'un de ces pays est le Nigeria, avec lequel l'Algérie a l'intention de mettre en application trois projets gigantesques. La route transsaharienne qui doit relier Alger à Lagos, le gazoduc Nigal qui doit servir à transporter le gaz naturel jusqu'en Europe via l'Algérie et le projet de liaison de fibre optique commencé en 2010. En outre, Alger a récemment exprimé son intérêt à la coopération avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour rappel, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadem, a rencontré le président de la CEDEAO, Jean-Claude Cassalbrou, à Abuja le 26 novembre. Les deux parties ont négocié des voies susceptibles de promouvoir la coopération entre l'Algérie et l'Organisation ouest-africaine sur les plans politiques et sécuritaires, surtout dans le Sahel. La crise au Sahara aura été le dernier acte du scénario de l'axe USA-Israël monté de toutes pièces contre Alger, avec la complicité du Maroc, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn et de la Jordanie. Mais là encore, Alger semble avoir sa carte gagnante via une Mauritanie qui s'est alignée sur le front Polisario aux grandes dames des intérêts de l'Empire. Et tout ceci sur fond d'une révolution militaire. Ces 15 dernières années, l'armée algérienne a multiplié les acquisitions militaires en y consacrant en moyenne un budget de 2,3 milliards d'euros par an. Avions, missiles, blindés, sous-marins, la qualité et la modernité de ces équipements font aujourd'hui de l'Algérie une puissance régionale dotée d'une force de frappe considérable. Et comme l'estiment les analystes en la matière, l'armée algérienne pourra sortir de ses frontières pour participer à des opérations militaires, soit un message clair destiné aux voisins marocains et libyens, ainsi qu'aux groupes terroristes qui opèrent au Sahel. L'Algérie est-elle prête à se montrer bien offensif face aux puissances qui se démènent pour l'isoler, mais sans grand succès?
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 6 décembre 2020. Depuis une dizaine de jours, le régime sioniste vit au rythme des explosions et des liquidations. Une alerte générale a été déclenchée au centre nucléaire de Dimona. Le régime de Tel Aviv a mis en garde ses employés anciens comme nouveaux contre le danger qui les guetterait en effet au tournant de chaque rue. Or, la République islamique d'Iran a souligné que la riposte à l'assassinat lâche du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh serait sécuritaire et militaire. L'Iran a également averti les pays de la région, surtout l'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn, les prévenant qu'ils paieront en effet le prix s'ils insistent pour emboîter le pas aux politiques du tandem américano-sioniste. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher justement sur cette situation explosive en Palestine occupée. Cette mise en garde de la République islamique d'Iran et, bien entendu, cette potentielle riposte que redoutent les responsables politiques et militaires israélien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Ania, comment Téhéran change-t-il la règle de conflit avec Israël ? S'interroge Al Jazeera. Dans un récent article, la chaîne Al Jazeera a écrit qu'après l'assassinat de son éminent scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, l'Iran a pointé du doigt l'entité sioniste et a promis une réponse décisive et calculée, ce qui a incité le ministère israélien des Affaires étrangères à relever le niveau d'alerte sécuritaire dans toutes ses ambassades et représentations et à avertir les Israéliens de ne pas se rendre aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, par crainte d'être la cible de représailles iraniennes. Selon le journal, pour sa part, l'ancien diplomate iranien Hadi Afkahi estime que le changement de règles de conflit avec l'entité sioniste se fera au niveau tactique plutôt qu'au niveau stratégique. Le leader de la révolution a tracé les règles du conflit avec le régime sioniste sur la base du fait que l'ennemi occupe l'une des deux Qiblas et d'autres terres islamiques et doit être rayé de la carte, a-t-il indiqué. Afkahi ajoute que son pays ne reculera pas d'un pouce de ses principes jusqu'à la libération de la noble Rots, qui constitue la boussole de la politique de Téhéran. Il a souligné que le leader de la révolution a confirmé que sa réponse à l'assassinat de Fakhrizadeh serait intelligente et douloureuse, ajoutant que le terme « réponse intelligente » signifiait des mises à jour au niveau des tactiques dans les règles du conflit avec l'ennemi sioniste. L'ancien diplomate iranien a ajouté que la prochaine étape pourrait nécessiter des opérations secrètes ou un jeu avec le facteur temporel, de sorte que l'ennemi reste dans un état de peur jusqu'à ce que les États-Unis éclaircissent leur position sur de nombreux dossiers régionaux, en particulier l'accord nucléaire, la guerre au Yémen et la normalisation. Il a ensuite décrit le conflit avec Israël comme un conflit d'existence sans frontières, soulignant que son pays resserrerait le siège de l'entité israélienne sur les plans sécuritaires et militaires à travers ses alliés, les mouvements de résistance s'étendant de la bande de Gaza au Liban et à la Syrie, en passant par l'Irak et atteignant le Yémen, sans oublier que les doigts de l'Iran sont toujours sur la gâchette et que ses armes sont continuellement dirigées contre les objectifs et les intérêts de l'ennemi dans la région.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à vos téléspectateurs et surtout à votre invité.
Maître Chamy, il paraît que le régime sioniste n'a pas réfléchi aux risques de son aventurisme, en effet belliciste et terroriste, en assassinant le scientifique, l'éminent scientifique nucléaire iranien, d'où l'enfer et qu'elle vit actuellement. Est-ce que les explosions et les liquidations en Palestine occupée auraient-elles un quelconque rapport avec le lâche assassinat de Mohsen Fakhrizadeh?
Personnellement, je pense que l'entité sioniste s'attend à une riposte beaucoup plus massive, beaucoup plus importante, parce que ça doit être en quelque sorte l'équivalent de la perte subie par la République islamique d'Iran. Nous ne sommes pas face à un personnage que j'appellerais anodin. C'est un personnage clé dans le programme nucléaire irakien, même si, par définition, j'ai eu l'occasion de l'exprimer, personne n'est irremplaçable. En revanche, c'est une question de symbole et ça restera toujours une question de symbole. C'est-à-dire, à partir du moment où vous touchez à un symbole de ma puissance nucléaire et de mes capacités de développement de cette énergie et de ces recherches, afin d'assurer mon indépendance et ma souveraineté par rapport à ce domaine d'activité, évidemment, je ferai de même face à vos menaces et face à la nature de l'attaque. La question maintenant est de savoir c'est quelle est l'ampleur et quel est le degré de la riposte. Personnellement, je ne pense pas que la République islamique d'Iran va se contenter de petites opérations sécuritaires ou juste de menaces symboliques. Il ne vous a pas échappé le survol des forces sionistes par le drone du Hezbollah il y a 3 jours de cela, me semble-t-il, et qui a été souligné à travers le monde, si j'ose dire, parce que la presse internationale en a parlé, a évoqué cette question-là, c'est-à-dire sur le sens de ce survol, la possibilité ou la capacité des Israéliens de l'intercepter, puisqu'il est revenu à sa base de départ indemne et sans difficulté, et quelle serait la finalité de ce type de démarche. Et surtout, il ne faut pas dire que c'est juste pour survoler les manœuvres militaires israéliennes dans la région. Je pense que l'objectif est beaucoup plus important. Et derrière cela, il y a un symbole, puisqu'on parle encore une fois de symbole, il y a un symbole, c'est-à-dire le territoire israélien de l'entité sioniste ne sont pas loin de la portée de toute arme possédée, que ce soit par la République islamique d'Iran, que ce soit par ses alliés. Aujourd'hui, le symbole à travers le Hezbollah n'est qu'une petite démarche afin que ce soit bien compris, puisque c'est un message clair, direct, aussi bien pour l'armée sioniste que pour l'ensemble de l'entité, c'est-à-dire rien n'est à l'abri de la portée des armes, encore une fois, de la République islamique d'Iran et de ses alliés. Aujourd'hui, ce survol démontre que cette cible aurait pu être atteinte. Pour l'instant, ça n'a pas été fait parce que c'est le moment qui va être choisi, c'est l'endroit et surtout, bien entendu, l'ampleur qui va être décidée par la République d'Iran. Ce n'est pas l'entité sioniste qui va choisir, encore une fois, le moment où l'endroit est la cible. Et je précise au passage qu'en parallèle, il y a encore le compte qui n'a pas été réglé avec le Hezbollah, c'est-à-dire le Hezbollah attend encore le moment pour venger le martyr de l'un de ses commandants qui a été assassiné par les Israéliens. Et aujourd'hui, vous avez en parallèle deux axes qui sont menées pour prendre une revanche claire et qui va être précise, et puis bien entendu qui va marquer l'entité sioniste à jamais pour que cette entité comprenne une bonne fois pour toutes que il ne faut pas s'amuser ou rigoler, si je vous m'exprime ainsi, avec aujourd'hui la République islamique d'Iran et ses alliés, puisque la riposte est certaine et va être à la hauteur de l'agression, mais surtout c'est l'axe de la résistance qui décidera des moyens et des moments ou du moment qui va être choisi par cet axe-là. Et nous verrons dans les prochains jours s'il sera décidé par l'axe de la résistance. J'ai eu l'occasion de le préciser aujourd'hui. Le plafond de verre a explosé, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a plus de limite par rapport à la personnalité qui pourrait être attaquée, la personnalité ou les personnalités qui pourraient être attaquées par la riposte. J'ai dit et je le redis, aujourd'hui même Netanyahou doit regarder derrière lui matin, midi et soir pour savoir si quelqu'un qui appartient à l'axe de la résistance n'est pas derrière lui pour le viser. Aujourd'hui, chaque personnalité sioniste doit mesurer que c'est l'ensemble du système sécuritaire, c'est l'ensemble du système politique et c'est l'ensemble du système militaire qui est menacé et qui est à la portée de l'axe de la résistance.
Merci infiniment pour ces éclairages, Maître Chami. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Paris Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Armidani, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à Maître Chami et à l'ensemble de l'équipe et Press TV, à vous-même et à tous les téléspectateurs.
Merci infiniment. Depuis l'assassinat de l'éminent scientifique nucléaire iranien, Madame Midani, des informations font état d'un véritable séisme au sein de l'appareil de renseignement et des forces armées israéliennes. L'Iran a promis, Maître Chami l'a rappelé, une réponse, une riposte intelligente, précise et claire. La question qui se pose, est-ce qu'Israël aujourd'hui est prêt à tous les scénarios de guerre et de riposte iranien, comme d'ailleurs le prétendent les responsables militaires israéliens?
À mon avis, certainement pas. En fait, ils sont dans un état, effectivement, où ils se disent de mobilisation, mais ils sont surtout dans un état de peur qui est justement occasionné déjà depuis l'assassinat du commandant du Hezbollah au mois d'août dernier. En fait, ils sont dans un état de peur totale où ils attendent la riposte du Hezbollah. Mais ce crime, ce vil crime contre le scientifique et le responsable du programme militaire et nucléaire et des missiles iraniens, en fait, qui est un très grand crime, en fait, qui a touché effectivement. Dans le cœur, je dirais, l'ensemble de l'État iranien, mais aussi l'ensemble de l'axe de la résistance. Il est aussi important, je pense, que le vil assassinat de Qasem Soleimani, du grand général Qasem Soleimani, aussi pour l'ensemble de l'axe de la résistance et du général El-Mohandes. C'est effectivement, il faut qu'ils s'attendent à tout, mais ils sont loin d'être... Dans l'unanimité, je dirais, de la mobilisation, puisque déjà des voix s'élèvent en Israël pour dénoncer ce jeu qui est fait par Netanyahou et qui expose l'entité sioniste et pour laquelle ils ne sont pas prêts. Des déclarations même des services de renseignement disent que c'était de toute façon un jeu où ils ne sont absolument pas prêts et les réactions, les retours seront très très importants pour Israël, ajoutant aussi au fait que des graves mouvements sociaux à l'intérieur de l'entité sioniste aussi qui font en fait que L'État est largement, l'État et la société israélienne et l'État israélien sont largement affaiblis. Il y a un grand discrédit de l'armée au sein de la population, un grand discrédit du gouvernement aussi au sein de la population. Netanyahou avec son collègue, en fait, ils sont aussi en grande discorde, ce qui fait que de toute façon, en fait, aujourd'hui, ils sont effectivement en état de débandade, malgré l'apparence qui fait que, en fait, il y a toutes ces relations qui se tissent avec les pays de les Émirats Arabes Unis, avec Bahreïn et avec l'Arabie Saoudite. Justement, en fait, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu le missile yéménite qui est tombé sur Aramco, sur NEOM, le jour où il y avait cette rencontre qui était censée être clandestine entre Netanyahou et le prince héritier Mohammed bin Salman, avec la déclaration aussi des Yéménites qui disaient clairement que ce missile était prévu pour aller jusqu'à Eilat et au nord de Eilat, mais il est tombé là et ils l'ont envoyé ce jour-là puisque il y a une grande trahison de l'Arabie Saoudite, et c'est aussi pour c'est à la fois une grande mise en garde, mais aussi bien de l'Arabie Saoudite, mais aussi de l'entité sioniste sur le fait que les armes du Yémen, des forces populaires du Yémen, pourront arriver jusqu'à Tel Aviv et même au nord de la Palestine occupée, et que de toute façon ils ne seront ni à l'abri ni ils ne seront pas du tout à l'abri ni les Saoudiens ni les
Merci,
Israéliens qui coopèrent avec eux.
Merci infiniment. Maître Chami, alors, selon de nombreux analystes, la République islamique d'Iran pourrait resserrer, en effet, en quelque sorte, le siège de l'entité israélienne sur le plan sécuritaire et militaire à travers ses alliés, les mouvements de résistance qui s'étendent, en effet, de la bande de Gaza à la Syrie, au Liban, mais aussi, en effet, en passant par l'Irak et le Yémen. Dans quelle mesure ce facteur de profondeur stratégique, Maître Chami, pourrait, en effet, modifier les règles du conflit en faveur de la République islamique d'Iran et de l'axe de la résistance?
Ce n'est pas un travail d'un jour, cette profondeur stratégique ou cette extension stratégique de la République islamique d'Iran. En réalité, depuis 1979, ce projet a été en quelque sorte préparé, c'est-à-dire depuis la naissance de la République islamique d'Iran, à partir du moment où l'imam Khamenei a dit clairement que sa cause fondamentale, c'est la cause palestinienne, a ouvert l'ambassade de Palestine pour remplacer l'ambassade d'Israël sur le territoire de la République islamique d'Iran, c'était déjà le premier symbole, mais aussi c'était la première initiative pour voir jusqu'où on peut aller. Et évidemment, la guerre avec l'Irak a été préparée par les Américains et leurs alliés contre la République islamique d'Iran, c'était pour bloquer ce projet-là, puisque c'est une extension naturelle, comme je l'ai déjà expliqué. Il y a une communauté d'intérêts stratégiques entre l'Irak et l'Iran à travers l'histoire, avec la culture, avec le cultuel. Tout les lie pour être ensemble. Et le seul blocage, si j'ose dire, à cette extension, c'était Saddam Hussein. Et à partir du moment où les Américains ont fait chuter Saddam Hussein, ils ont, par mégarde, par stupidité politique, par manque de calcul et par mauvaise stratégie, ils ont fait sauter le verrou irakien et ont donné libre cours, si j'ose dire, à l'extension de la stratégie iranienne en Irak. la Syrie était déjà l'allié stratégique de l'Iran depuis l'époque du président Assad, Hafez Assad, c'est-à-dire avant Bachar Assad. Hafez Assad avait compris que son lien stratégique devait passer par-dessus l'Irak et a pris fait et cause pour l'Iran contre Saddam Hussein dans le conflit qui les opposait. Le rapport avec le Hezbollah, c'était également c'était l'extension de cette projection stratégique. Évidemment, il fallait des bases en Palestine, et la base en Palestine, ce sont les deux branches, si j'ose dire, le Hamas et le djihad islamique, et bien d'autres militants de la cause palestinienne qui sont sur les territoires de la Palestine occupée, que ce soit d'avant 48 et après 48. Pour moi, je ne fais pas de distinguo, parce que c'est un territoire occupé dans sa globalité, et l'Iran a sa main, ses pieds, si j'ose dire, et ses alliances stratégiques dans chaque recoin, y compris dans les territoires de 48, c'est-à-dire ce qu'on appelle les territoires qui sont aujourd'hui constitutifs de l'entité sioniste. Il n'y a pas un endroit, et ça les Israéliens commencent à le sentir, il n'y a pas un endroit à travers les attaques qui ont été menées en territoire de 48. Évidemment, les Israéliens ont compris le message qui a été envoyé. Et aujourd'hui, chaque Palestinien a comme symbole ce qui se passe au Liban, ou ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire la résistance libanaise par rapport à l'ennemi sioniste, c'est-à-dire comment il a pu démontrer que cet ennemi peut être vaincu. Les Palestiniens se considèrent comme les autres symboles pour vaincre l'entité sioniste. Et aujourd'hui, chacun d'eux est devenu en quelque sorte un bras armé. Et chaque bras armé est devenu par essence un bras au profit de l'axe de la résistance et par conséquent de la République islamique d'Iran. Mais à mon sens, il y a d'autres projets qui se préparent et les Israéliens craignent ces autres projets-là et des surprises les attendent, et moi j'en suis certain.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Mme Midani. Mme Midani, il nous reste 4 minutes. Merci beaucoup. Alors, étant donné ces alliances stratégiques, cette profondeur stratégique, il paraît qu'aujourd'hui, l'entité sioniste est plus que jamais en ligne de mire de l'ensemble des forces de la résistance, Madame Idani, n'est-ce pas?
Absolument, d'autant plus en fait qu'ils ont été aussi un bras actif dans dans le soutien et dans la guerre qui a été menée par les terroristes contre la Syrie. Et il y a aujourd'hui même des déclarations du Daily Telegraph qui dénoncent, qui montrent ces coopérations ou cette collaboration évidente entre les sionistes et les terroristes en Syrie. Donc, l'axe de la résistance dans sa globalité, de toute manière, répondra effectivement à ces agressions israéliennes aussi bien au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak et en Iran, bien sûr. Alors, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que non seulement il y a une unité dans ce forte au niveau, une unité objective entre ces différentes composantes de l'axe de la résistance, mais aussi une unité au niveau de la lutte et puis de la réalité des différentes ripostes. Donc, effectivement, l'État sioniste a à craindre des ripostes qui viennent de partout, y compris de l'intérieur de la Palestine occupée, quelle que soit la date de l'occupation. Donc, effectivement, ils se sont mis eux-mêmes en danger. Je crois que même, de toute façon, les États-Unis et Trump ne pourra même pas leur venir en aide, parce que aucune personnalité ou aucune personne dans l'administration américaine ne serait aujourd'hui pour l'éclatement d'un grand conflit ou pour faire face effectivement à un grand conflit dans la région. Dernier point, il est important de voir que les réponses en fait sur le plan cybernétique, sur le plan de l'électronique, etc., ont déjà commencé par l'Iran contre l'État sioniste, hein, et peut-être aussi contre l'Arabie saoudite et les Émirats. arabe uni, parce que en fait ça a été aussi une décision que ça sera aussi du même type, mais aussi pas nécessairement par les armes et par le militaire. Donc, voilà.
Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, maître André Chamy, juriste international, sociologue depuis Alsace. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
L'Iran possède de nombreux sites cultes chrétiens peu connus et qui passent inaperçus dans les itinéraires touristiques ou même les voyages religieux. Ces lieux de culte chrétiens sont à découvrir dans toutes les régions iraniennes. Citons par exemple les vestiges des églises historiques nestoriennes sur les îles iraniennes du golfe Persique, les petites églises villageoises du nord de l'Iran, sur le littoral sud de la Caspienne, la belle église arménienne de Mashhad, au cœur de la ville sainte chiite, ou les chapelles à l'architecture montagneuse et rustique, vieilles parfois de quelques siècles, que l'on retrouve dans les montagnes du Zagros, notamment dans la province du Kurdistan. Le sujet a même attiré l'attention des chercheurs en études iraniennes en Europe et au Canada. Mais ce domaine est encore quasiment inconnu et demeure à découvrir pour les passionnés de la civilisation iranienne et du patrimoine culturel des chrétiens d'Orient. La majorité des églises actives en Iran aujourd'hui appartiennent au culte arménien. Celles de Téhéran et d'Isfahan sont bien fréquentées. Plusieurs messes y sont dites par semaine et l'agenda de ces lieux de culte est bien chargé. Parmi les célèbres monastères arméniens d'Iran, on peut citer les monastères arméniens de Saint-Thaddée, 8e siècle, de Saint-Stépanos de Djolfa et la chapelle Sainte-Marie de Djordjor. Inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ces trois monuments comptent parmi les plus anciens édifices chrétiens existants. Les ensembles monastiques des provinces d'Azerbaïdjan iranien sont les plus connus, mais sont loin d'être les uniques monuments chrétiens d'importance en Iran. Citons par exemple la cathédrale arménienne de Vank, connue sur le nom de cathédrale du Saint-Sauveur, dans le quartier arménien de Djolfa, à Isfahan. Cette cathédrale, qui est la plus visitée d'Iran, a été bâtie au XVIIe siècle. À Urumiyye, ville du nord-ouest iranien, il existe quelques églises assyriennes. La cathédrale Mart Mariam, Mère Marie, en est un très vieil exemple. De récentes études au carbone, XIV ont montré que des éléments de l'édifice datent du VIe siècle. Cette église est loin d'être la seule dans la région. Dans les villages avoisinants, Oroumié, dont le nom même provient de l'assyrien, l'on peut retrouver 80 églises, la plupart désaffectées aujourd'hui. Dans certains villages, même l'architecture des cafés rappelle celle des églises de la région. Mis à part les grandes villes iraniennes reconnues pour leur minorité chrétienne comme Téhéran, Ispahan et Oroumié, il existe aussi des villes abritant des églises petites et grandes qui sont toujours inconnues du grand public. Notamment la ville de Qazvin, ancienne capitale safavide, située à proximité de Téhéran, que l'on connaît bien plus pour ses mosquées, ses imamzadés, ses bazars et surtout ses palais safavides. Qazvin abrite pourtant une église arménienne, une église assyrienne et une chapelle orthodoxe russe. Néanmoins, rares sont les touristes iraniens ou étrangers qui se donnent la peine d'aller à Qazvin pour découvrir la très belle et authentique église orthodoxe russe de Kantor. L'église Kantor est l'une des plus petites églises du monde. Sa petite taille est déjà une caractéristique singulière qui met en relief son identité et son histoire. En effet, cette église est en réalité une chapelle construite au XIXe siècle sous le règne de Nasreddin Shah, 1831-1896. À l'époque, une société russe de construction, transport et assurance était en charge d'un projet de construction de route entre Qazvin et Bandar Anzali. Cette entreprise, qui menait aussi d'autres projets à Qazvin, s'était établie dans le quartier Pambe-Rissé de la ville et y avait notamment construit quelques bâtiments, dont cette chapelle, ainsi qu'une école, un hôpital, un réservoir d'eau, un théâtre, la mairie actuelle, et un centre administratif, abritant aujourd'hui les archives de la ville, ainsi que la bibliothèque centrale de la province. En fait, on peut dire que cette société russe a construit une petite cité nommée Kantor. Cette cité a été notamment visitée par le français Pierre Loti lors de son voyage en Perse. Les ingénieurs et les techniciens de cette entreprise étaient de confession orthodoxe. Ils ont donc aussi édifié un lieu pour y célébrer leurs rites religieux. Le mot Kantor, qui signifie bureau en russe, pourrait aussi faire allusion au chant liturgique. L'église Kantor reflète fidèlement le goût architectural et l'esthétique orthodoxe de ses bâtisseurs russes. Le plan est en forme de croix. Les éléments grecs sont nombreux dans le bâtiment. Les colonnes de style ionique et dorique sont clairement visibles sur la façade. Les briques rouges et une tour d'horloge de 11 mètres de haut sur 3 étages renvoient à l'architecture des églises russes avec son dôme rond et ses tours. À la différence des églises catholiques, le tête de l'église orthodoxe Kantor est orienté vers l'est et l'entrée est à l'ouest. Il n'y avait pas originellement de banc dans la partie centrale de l'église et les gens restaient debout durant la messe. Les murs sont couverts d'images pieuses et chrétiennes. Dans un coin, un espace a été aménagé pour les cierges et les offrandes. La partie sud de l'édifice comprend un petit appartement où résidait autrefois le prêtre. Aujourd'hui, cet appartement est devenu un magasin de souvenirs, de croix et d'objets chrétiens. On peut également y acheter des maquettes de la petite église. Dans la cour de l'église se trouvent deux pierres tombales aux épigraphes cyrilliques. L'une d'elles contient la dépouille d'un jeune ingénieur russe décédé à Qazvin avant la fin des travaux de la voirie. L'autre pierre tombale appartient à un pilote de l'armée tsariste dont l'avion s'est écrasé près de Qazvin lors de la Première Guerre mondiale. Dès l'entrée, le regard du visiteur est happé par les croix orthodoxes qui rappellent l'identité du lieu. on peut retrouver cette croix orthodoxe, différente de la croix catholique à Téhéran aussi, au cimetière russe du quartier d'Oulap. La chapelle orthodoxe, située au cœur du complexe orthodoxe de Doulap, accueille aujourd'hui encore les chrétiens orthodoxes vivant en Iran, notamment les personnels des ambassades des pays chrétiens orthodoxes, dont le personnel diplomatique russe. À noter que Téhéran abrite également l'église Saint-Nicolas, qui est le centre principal de l'orthodoxie russe en Iran. L'église Cantor a été désaffectée à la fin des travaux de l'entreprise de voirie russe et le départ des travailleurs orthodoxes russes suite à la révolution de 1917. Lorsque les alliés anglo-soviétiques occupèrent l'Iran en 1941, une partie des troupes russes stationna à Razvin et l'église Cantor fut de nouveau fréquentée. L'administration de l'église, à cette époque, a été confiée à un médecin polonais résident à Razvin. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et suite au départ définitif des Russes, cette église a été de nouveau désaffectée. Elle abrita pendant quelques décennies la bibliothèque du lycée Shah Dort sous le règne de Mohammad Reza Pahlavi. Après la révolution islamique de 1979, cette église a été enregistrée en tant que patrimoine national d'Iran. Elle est aujourd'hui une attraction touristique de la ville de Razvin. Cette église, par son architecture singulière, son importance dans l'histoire contemporaine de l'Iran et le symbole des relations russo-iraniennes qu'elle représente, est incontestablement l'un des trésors de la ville de Razvin.
Thank you.